parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. En ce 27 septembre, fête de Saint-Vincent de Paul, je vais évoquer la vie de cette figure du renouveau spirituel et apostolique du XVIIe siècle, prêtre, fondateur de congrégations, qui œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale. Saint-Vincent de Paul est né au village de Pouy, près de Dax, en 1581. Fils d'agriculteur, il est amené très tôt à apporter son aide à ses parents, qui peinent à nourrir une famille nombreuse. Aussi passe-t-il ses premières années comme berger à garder des moutons, des vaches et des cochons. Il doit quitter toutefois son foyer familial pour Dax, où son père l'inscrit au collège des Cordeliers tenu par les franciscains. Son père espère ainsi le préparer à obtenir quelques bons bénéfices, grâce auxquels il pourra compléter les revenus familiaux. Il y reste 3 ans, pendant lesquels il suit avec succès des cours de grammaire et y apprend le latin. Il est pour ses camarades un exemple de travail acharné. À l'âge de 19 ans, il est ordonné prêtre. Grâce aux recommandations du Saint-Siège, il devient en 1610 aumônier de la reine Marguerite de France, qui consacre alors un tiers de ses revenus à des œuvres de charité, notamment à la confrérie des frères de Saint-Jean de Dieu, connus sous le nom de « Frères de la Charité », et dont il s'inspirera pour créer les Filles de la Charité. Puis il est nommé aumônier général des galères en 1619. Il fonde en 1625 la Congrégation de la Mission. Vouée à l'évangélisation des pauvres des campagnes, la congrégation prendra le nom de « Lazariste », car demeurant dans le quartier Saint-Lazare de Paris. Il crée un séminaire de la mission et formera de nombreux prêtres. Les premiers lazaristes furent envoyés à Alger, à Madagascar et en Pologne. En 1633, il fonde la Congrégation des Filles de la Charité, aussi appelée Sœurs de Saint-Vincent de Paul, sous la responsabilité de Louise de Marillac. Elles sont vouées au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres. En 1638 débute l'œuvre des Enfants trouvés. En 1648, il convoque une assemblée de dames charitables et, prenant la parole, il rappelle que l'œuvre avait déjà sauvé 600 enfants, mais que les ressources manquaient pour poursuivre l'œuvre entreprise. Ses paroles furent pathétiques et convaincantes, puisque le jour même, l'hôpital des enfants trouvés de Paris reçut les capitaux nécessaires pour poursuivre sa tâche. En 1653, il fonde l'hospice du Saint-Nom de Jésus. Saint-Vincent de Paul institue également des retraites spirituelles au cours desquelles se retrouvent des gens de toutes conditions, le pauvre et le riche, le laquais et le seigneur. Ils priaient ensemble et prenaient le repas au même réfectoire. Il sait mobiliser des pauvres, les dames de la noblesse et de la bourgeoisie française. Il fonde également un hospice pour les personnes âgées, qui devient l'hôpital de la Salpêtrière en 1657. Il est béatifié par Benoît XIII en 1729 et canonisé par Clément XII en 1737. Actuellement, son corps est exposé dans la chapelle des Lazaristes, 95 rue de Sèvres à Paris, où ses reliques sont disposées dans une châsse en argent ciselé. En 1885, le pape Léon XIII l'institue patron de toutes les œuvres charitables. Attardons-nous maintenant sur la mission de ces filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, qui sont une société de vie apostolique féminine de droit pontifical. Durant tout le XIXe siècle, et jusqu'aux années 1960, les sœurs de Saint-Vincent de Paul ont été des auxiliaires de santé dans les hospices et les asiles. Elles le furent d'abord massivement, puis à partir de 1920, elles furent remplacées peu à peu par des infirmières, par des infirmiers psychiatriques et par des aides-soignants laïques. Les filles de la charité forment le groupe de religieuses numériquement le plus important dans l'Église catholique. Les sœurs se dédient au service des malades, à domicile ou dans les hôpitaux, aux soins aux personnes handicapées, aux personnes âgées dans des maisons de retraite, aux orphelinats, aux foyers pour femmes et enfants en difficulté et à l'enseignement. Aujourd'hui, on en compte 16 700, œuvrant dans 1983 communautés, dans 95 pays, sur tous les continents. La maison générale est 140 rue du Bac, là où se trouve la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Beaucoup de catholiques connaissent cette adresse et s'y rendent quand ils vont à Paris. Pourquoi ? Grâce à Catherine Labouré, en religion, sœur Catherine de la Charité, née en 1806. Catherine révèle à son confesseur que, pendant son noviciat, dans la nuit du 19 juillet 1830, jour de la fête de Saint-Vincent de Paul, elle aurait été réveillée par un petit enfant qui lui dit « Ma sœur, tout le monde dort bien. Venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. » Croyant rêver, Catherine se lève, s'habille et suit l'enfant. Arrivée à la chapelle, elle entend bientôt le froissement d'une robe de soie. La Sainte Vierge est là, resplendissante, et lui parle durant 2 heures, lui confiant que Dieu a une mission difficile pour elle. Le 27 novembre 1830, Catherine rapporte que la Sainte Vierge était revenue lors de la méditation du soir. La Sainte Vierge se tenait debout sur un globe, avec au pied un serpent et portant des anneaux de différentes couleurs d'où jaillissaient des rayons de lumière sur le globe. Tout autour apparaissaient les mots « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et la Vierge dit « C'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me le demandent ». Et pour expliquer les anneaux qui ne projetaient pas de rayons, elle ajouta « C'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander. » Puis le tableau parut se retourner. C'est le revers de la médaille, un grand M initial de Marie surmonté de la croix. Au-dessus, 2 cœurs, celui de Jésus couronné d'épines et celui de Marie percé par un glaive, 12 étoiles entourant ce tableau. Les 2 faces de la médaille miraculeuse. Catherine aurait alors entendu la Sainte Vierge Marie lui demander de porter ces images à son confesseur en lui disant de les faire frapper sur des médailles, car tous ceux qui la porteront avec confiance recevront mes grâces. Après 2 ans d'enquête et d'observation de la conduite de Catherine, le prêtre informa l'archevêque de Paris. La requête fut approuvée et les médailles furent frappées et devinrent extrêmement populaires, notamment durant l'épidémie de choléra de 1832. Bien que la foi en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie fût largement répandue, la doctrine n'avait pas encore été définie et le dogme non encore proclamé. La médaille, avec les mots « conçue sans péché », conduisit le pape Pie IX à aller de l'avant. Le 8 décembre 1854, il proclame solennellement le dogme de l'Immaculée Conception. Et on se souvient qu'en 1858, à Lourdes, la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette Soubirou par ces mots « Je suis l'Immaculée Conception ». Catherine Labouré meurt le 31 décembre 1876, 46 ans après ses visions, et canonisée en 1947, par le pape Pie XII. Cette chapelle de la rue du Bac est devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté, avec 2 millions de visiteurs par an. Il fait partie des 10 lieux culturels les plus visités à Paris. En 1933, la châsse de la religieuse est placée au pied d'une statue de la Vierge. 5 siècles nous séparent de la vie de Saint-Vincent de Paul. 2 siècles sont passés depuis les apparitions de Sainte Catherine Labouré. Ces 2 grandes figures de l'Église sont toujours présentes dans nos mémoires et sont l'incarnation au service des frères et des pauvres. Mardi, j'ai parlé de religieuses de cette congrégation rencontrée aux Philippines. Quelques années auparavant, j'en ai côtoyé d'autres au Vietnam. Dans ces deux pays, je peux témoigner que c'est vraiment au service des plus pauvres, enfants, orphelins, handicapés, personnes âgées, que les sœurs de la charité consacrent leur vie. Au revoir, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines.